vous devez enregistrer avec deux micros. Oui, bah, ça va.
Ça va.
Oui, ça va, je pense que...
Bon, alors on commence avec peut-être la même question. Vous êtes Orléans, vous dites, depuis 9 mois.
9 mois, oui.
Alors vous n'êtes pas Orléanais.
Je ne suis pas Orléanais, je ne connaissais pas Orléans. Et j'ai fait connaissance avec la ville depuis 9 mois. Ça
oui. Vous êtes parisien, peut-être?
Non, je suis un provincial ancien Manceau. J'habitais jusqu'à présent le Mans. Et on m'a donné la responsabilité de l'usine d'Orléans, une fois que je suis venu et j'ai fait connaissance avec la ville, tout tranquillement.
Vous travaillez depuis combien de temps chez Renault?
Depuis plus de 20 ans.
Ah oui. Toute votre carrière? Oui.
Toute ma carrière a été faite chez Renault.
Oui. Ah oui.
Depuis mon service militaire, après avoir fait une école d'ingénieur, je suis arrivé chez Renault. En 1950, et ça fait maintenant 20 ans.
Ah oui. Alors, vous êtes le témoin parfait, je crois. Depuis combien de temps est-ce que Renault s'est installé ici à Orléans?
Renault s'est installé à Orléans en 1946 en achetant une usine qui appartenait à une société qui s'appelle GGR, que vous retrouvez d'ailleurs, c'est une société spécialisée dans les appareils de mesure de vitesse, le compteur, compte-tour. Vous retrouvez sur nos voitures. L'usine avait, GGR avait quelques bâtiments que vous apercevez ici. Et Renault a acheté cette usine pour fabriquer des pièces de très haute précision, des pompes d'injection, dont vous avez un exemplaire dans le bas de mon placard. Là.
Mmh.
Pièces de très haute précision, ce qui a d'ailleurs donné la vocation de précision à l'usine d'Orléans, puisque toutes les pièces que nous fabriquons sont des pièces de très haute précision. Je me répète.
Pardon?
Rien, je me répète.
Ça n'a aucune importance qu'on se répète parce que, enfin, ce n'est pas une interview qu'on va présenter devant un public. Donc, l'usine à Orléans a un rôle spécifique, particulier, au sein de l'organisation Renault.
Je crois qu'il serait bon que, avant de parler directement de l'usine d'Orléans, je vous parle un petit peu de la régie en général.
Oui.
La régie Renault, qui est une grande usine d'automobile en France, c'est la première usine de France en automobile, comprend un certain nombre d'usines qui sont groupées autour de Paris. Vous avez Billancourt, vous avez Choisy, vous avez Flins, ce sont les usines parisiennes. Flins, je considère que c'est une usine parisienne, parce que 40 km, c'est quand même la banlieue de Paris. Ensuite, deux grandes usines de mécanique, Cléon et Le Mans, qui sont à 120 et 200 km de Billancourt, une grande usine de montage qui est au Havre, et une petite usine de mécanique qui est Orléans. La régie fabrique un grand nombre de ses pièces, rentrant dans la réalisation d'une automobile, et l'usine d'Orléans, sa vocation a été donnée au départ par l'achat de l'usine GGR, c'est-à-dire la précision. Et nous fabriquons les pièces nécessaires au moteur, c'est-à-dire les axes de piston, les soupapes, les sièges de soupapes, les guides de soupapes, les axes de boîte de vitesse, les axes de boîte de vitesse, le terme axe ne me satisfait pas. Et puis quelques petites bricoles, quelques petites pièces qui gravitent toujours autour de la boîte de vitesse ou de la transmission.
Oui.
Nous fabriquons à l'heure actuelle 4500 véhicules par jour environ. Nos petites pièces sont en général en quantité assez importante dans tous les véhicules. Il y a un axe de piston, nous en fabriquons 4 par véhicule. Un siège de soupape, nous en fabriquons 8. Ce qui fait que nous avons une production ici à Orléans qui est orientée vers la précision d'une part, je l'ai dit tout à l'heure, et la grande quantité de modèles, la grande quantité de chaque pièce que nous fabriquons. Les quantités que nous fabriquons quotidiennement sont de l'ordre de 15 et 20 000 pièces.
qu'il faut transporter, évidemment.
Que nous emmenons à Paris, à Cléon, ou... Paris, Cléon et Lama.
Oui. Donc, la raison pour laquelle Renaud est venu ici, c'est surtout qu'on disposait ici déjà d'une fabrique existante.
Oh, je crois que oui. C'est en fait que l'usine existait, qu'elle avait une vocation bien définie, qu'il était nécessaire à ce moment-là que Billancourt se desserre. Et je pense que la direction de l'époque, je n'ai pas assisté au... Je n'étais pas à la régie à ce moment-là, il était nécessaire pour la direction de l'époque de chercher une usine pour fabriquer ses pompes d'injection, d'une part, et fabriquer ses petites pièces. Mais ma foi, l'usine Gégère étant disponible, c'était au lendemain de la guerre dernière, de 1945, l'usine Gégère existant, les bâtiments, les moyens, la chaufferie, enfin tous les accessoires nécessaires à la vie d'une usine existaient. Et la régie a dû acheter cette usine pour cette raison-là.
Et pas trop loin de Paris, et avec pas des communications pas mauvaises.
Oh, les communications sont relativement bonnes avec Paris. Oui. Pour autant que les communications soient bonnes entre villes, mais enfin, elles sont pas plus mauvaises entre Paris qu'une autre, avec une autre ville.
Et une qualité de main-d'œuvre suffisante à Orléans.
Sur ce point. Dans ce domaine, la main-d'œuvre d'Orléans, excusez.
Oui.
Oui. Allô? Oui. Allô?
Nous parlions, je vous ai posé une question sur la main-d'œuvre, le personnel. Est-ce que vous trouvez qu'à Orléans, vous avez ce qu'il vous faut?
Bon, la main-d'œuvre orléanaise, pour nos besoins, enfin en ce qui concerne notre fabrication, est bonne. Nous trouvons en quantité ce dont nous avons besoin, et en qualité aussi. Non, la main-d'œuvre d'Orléans, c'est une main-d'œuvre de province. Nous n'avons que relativement peu d'étrangers à la France, où les étrangers que nous avons sont des gens déjà intégrés, c'est-à-dire qui vivent comme des Français, qui vivent, qui sont mariés souvent à des Françaises, qui connaissent la ville, qui connaissent et qui parlent le français d'une façon très normale. Non, là, de ce côté, nous n'avons pas de problème de main-d'œuvre.
Vous formez la main-d'œuvre sur place?
Non. Jadis, une école d'apprentissage existait parallèlement à l'usine. Et depuis quelques années, cette école a été séparée de l'usine et fait partie maintenant de l'éducation nationale. Elle est installée à environ 200 ou 300 mètres vers Blois.
Ah oui, j'ai vu, le collège technique.
Collège technique, oui. Collège technique, enfin c'est une école qui au départ était Renault.
Oui.
Mais nos besoins ne sont pas tels que nous ayons à former des grandes quantités de personnes chaque année. Et c'est ce qui a fait que la régie s'est séparée de cette école et l'a remise à l'éducation nationale, qui, dans cette école, forme quand même un effectif assez important, 50, 60 élèves par an, ce qui est quand même important. Et nous n'avons pas besoin, en fait, de 50 à 60 personnes par an parmi des professions, d'une technicité assez élevée.
Les ouvriers qui sont déjà ici, qui travaillent déjà ici, je crois qu'ils ont à Renault certains droits ou certaines possibilités d'une formation plus poussée, j'ai entendu dire. C'est possible ou non?
Oh, il est toujours possible à un ouvrier de se perfectionner, de compléter ses connaissances. Il peut le faire par différentes voies. Il existe... des centres de formation professionnelle à l'extérieur de l'usine, et nous donnons aux ouvriers la possibilité d'assister à des cours ou à des travaux pratiques, ce qui leur permet de s'améliorer, d'améliorer leurs connaissances. Il existe aussi à Orléans un centre associé au Conservatoire des Arts et Métiers qui permettrait en fait à terme d'arriver au niveau d'ingénieur. Tout ça dépend du courage des gens, de leur bonne volonté à vouloir suivre les cours.
Oui. Et à certains endroits, je crois aussi que, enfin, j'ai entendu dire que Renault s'intéresse au logement de ses ouvriers. Est-ce que c'est le cas ici?
Oui, comme toute usine. Renault s'intéresse au logement d'abord en participant, comme tous les industriels français, à la taxe de 1% sur les salaires qui sont obligatoirement reversés sur le logement. Mais ce que fait aussi Renault, et qui permet à beaucoup d'ouvriers d'atteindre, d'arriver à la propriété d'une maison, nous prêtons à des taux imbattables sur le marché français, nous prêtons de l'argent pour permettre l'accession à la propriété. Beaucoup de nos ouvriers nous font une demande de prêt, et ma foi, en fonction de des qualités et puis des possibilités de remboursement, ma foi, on peut dire qu'à 100%, on leur prête l'argent qu'ils demandent. C'est la forme possible en France, donc les 1%, et d'autre part, les prêts que la régie fait.
Très bien. Vos moyens ou vos besoins de communication maintenant avec la direction centrale de Renault, quels sont les modes de communication?
Sur le plan pratique, sur le plan matériel?
Oui, c'est ça, oui.
Le téléphone.
Oui. Et cela suffit?
Le téléphone, oui. Ou alors nous aurons dans quelques jours, si le petit est bien branché, un téléscripteur, enfin un CRID, un système CRID, le Telex. Voilà,
Ah oui.
Mais les deux moyens, enfin le moyen pratique, c'est le téléphone. Pour l'information rapide, et ou alors le courrier qui est amené soit par les PTT, c'est-à-dire par l'extérieur, soit par le camion qui fait la liaison chaque jour avec Billancourt. Nous n'avons pas d'autres moyens de liaison. Outre les deux moyens que je viens de citer, le téléphone ou le camion, nous n'avons pas d'autres moyens.
Est-ce que objectifs de production, les objectifs sont fixés par Paris.
Sont fixés par Paris.
Oui.
Nous sommes extrêmement liés parce que quand on construit une voiture, il faut qu'on ait toutes les pièces nécessaires à faire une voiture.
Bien sûr.
Et comme ces pièces sont faites dans les différentes usines de la régie, il faut que toutes les usines fabriquent le même nombre de pièces nécessaires à la sortie de la voiture.
Oui.
Les objectifs nous sont fixés par Paris, par Billancourt.
Oui. Et est-ce qu'il vous reste quand même une initiative?
Oui, il nous reste quand même beaucoup d'initiatives.
Oui.
Car à l'intérieur d'un programme, c'est-à-dire une quantité de véhicules à fabriquer dans une année, nous avons la possibilité de fabriquer ces voitures par différents moyens. Et surtout avec au niveau des usines décentralisées, avec un effectif différent. Quand je dis effectif, c'est le nombre de personnes dans l'usine. Et le cadre étant fixé, la direction générale nous fixe un cadre. Et nous avons toute liberté à l'intérieur de ce cadre d'agir comme nous voulons. Soit sur l'embauche, embaucher plus ou moins de personnes, soit sur la paye, même sur les salaires. À l'intérieur d'un cadre, là encore, nous pouvons évoluer. Évidemment, le cadre est peut-être restreint dans certains cas, mais enfin, nous avons toute possibilité de le faire. Mais nous avons un objectif qui nous est fixé, un budget qui nous est fixé, et à l'intérieur de cela, de ma foi, nous sommes libres.
Mm-hmm.
C'est un degré de liberté relativement faible.
Oui, mais est-ce que cela vous permet quand même de sentir que votre foyer, votre centre d'activité, pour vous personnellement, est-ce Orléans ou Paris?
Ah, mais pour le centre d'activité, pour moi, est Orléans.
Oui.
C'est vraiment à Orléans que se trouvent les problèmes.
Ah oui.
Non, c'est au niveau de l'usine locale. Je on pourrait parler pour l'usine du Mans de la même façon, mais c'est au niveau de l'usine sur le plan local que vraiment se trouvent les problèmes.
Et vous êtes responsable aussi peut-être de décider le nombre de services qu'il vous faut ici.
Oui. Oui, j'ai toute liberté à l'intérieur de ce cadre qui nous est fixé. Si vous voulez, nous avons 1 million de voitures à faire sur une année. Le budget de l'usine d'Orléans représente un certain nombre de milliards de francs. Et à l'intérieur de ce budget, j'ai la totale liberté de faire ce que je veux.
Ah oui, je comprends maintenant, oui. Est-ce que, pour la prochaine question, évidemment, mon optique est assez différente d'une optique française, c'est-à-dire qu'en Angleterre, nous n'avons pas d'exemple d'une industrie nationalisée de ce type, une industrie de fabrication directe. Il y a la sidérurgie qui vient d'être nationalisée, mais c'est autre chose. Alors, on se demande toujours de quelle manière une organisation du type Renault diffère d'une organisation indépendante ou d'entreprise libre.
Il n'y a absolument aucune différence entre une usine comme Renault et une usine comme Peugeot. À la différence près, c'est que seul le président directeur général est chez Renault nommé par les ministres de tutelle et chez Peugeot est désigné par les actionnaires. Autrement, toutes les structures sont semblables.
Ah oui.
La Régine est une entreprise qui se place sur un marché très compétitif où la lutte est très serrée. Nous n'avons absolument aucun point commun avec la SNCF, les PTT ou l'électricité de France. L'usine Renault a un PDG, un président, c'est M. Dreyfus, qui lui est nommé par le ministre, le président du conseil d'administration, qui a donc la responsabilité suprême de l'entreprise. Mais tout le reste est absolument semblable à une entreprise privée. Absolument.
L'administration nationale, l'administration gouvernementale ne pèse pas.
Absolument pas.
Sur l'organisation.
Non, absolument pas.
Alors c'est pour vous comme si vous étiez directeur général d'une...
Chez Peugeot, chez Citroën, ou n'importe quelle entreprise française. Il n'y a absolument aucune différence avec les entreprises françaises. Mm-hmm. Le statut a été défini en 1945 par un décret qui a été signé par le général de Gaulle, qui nationalisait la régie. On a nommé à ce moment-là comme président-directeur général M. Pierre Le Faucheux. Mais hormis ça, nous n'avons absolument avec l'administration aucun lien. Vraiment, aucun. Je ne connais pas sur le plan local aucune tutelle, aucun problème avec la préfecture, par exemple, au fond, le représentant de l'État étant le préfet, il n'a absolument rien à voir dans notre entreprise. Et à Paris, au niveau central, c'est pareil.
Est-ce qu'il y a peut-être des différences, selon vous, des différences d'optique ou des différences... dans le sens de responsabilité ou le sens d'engagement
entre Renault et une entreprise privée.
Oui, c'est ça.
Absolument aucune. Oui. L'objectif, c'est de faire les voitures, le plus de voitures possible au prix le moins élevé possible.
Oui.
Et c'est le but de tous les constructeurs automobiles, que ce soit en France ou en Angleterre.
Oui. Mais il y a par exemple Henry Ford qui voulait mettre une petite voiture à la portée de tout le monde. Il y a aussi ceux qui s'intéressent simplement au profit ou au bénéfice qu'une entreprise peut faire.
Oh, je crois que par sa vocation, notre régie nationale, la Renault, a quand même, si vous voulez, une vocation sociale en France.
Oui.
Cette vocation sociale, on la trouve... peut-être pas tellement dans ces modèles, quoique la voiture la plus vendue sur le marché français est la Renault 4, qui est une voiture de très grande diffusion par son prix et par les intérêts qu'elle présente. C'est peut-être aussi une forme sociale, c'est peut-être aussi une forme de pénétration sociale en France, mais nous n'avons absolument aucune contrainte de ce domaine, si vous voulez. C'est un peu par l'esprit de la maison, c'est-à-dire on va essayer de faire pénétrer l'automobile le plus loin possible dans les couches sociales, en fabriquant des petites voitures qui ne coûtent pas tellement cher, qui sont pratiques, qui sont accessibles à beaucoup de bourses. Mais je crois que nous n'avons pas, à ce point de vue-là, une contrainte. Là encore, on n'impose pas à la régie de sortir tel type ou tel type de voiture.
Non.
Je ne crois pas. Non.
À quoi tient, pensez-vous, la réussite de Renault ?
La réussite.
Sa réussite, oui, commerciale, enfin...
La réussite de Renault, enfin, à quoi tient-elle ? Ben, elle tient d'abord, moi je crois qu'elle tient deux choses. Elle tient d'abord à la qualité de ses véhicules. La qualité est un problème très important, car le client qui achète une voiture, et surtout maintenant, il y a 15 ans on disait on achète une voiture pour bricoler un peu, pour s'amuser. Maintenant on achète une voiture pour pouvoir rouler. Et vous partez pour aller à Beaugency, pour prendre un exemple régional, vous ne voulez pas avoir d'ennui. Donc, problème qualité, pas de panne, pas de... une voiture qui ne s'oxyde pas, la peinture qui conserve sa couleur, les coussins intérieurs qui conservent leur forme. Et je crois que c'est ça, une des premières qualités de la régie. Et deuxième point, je crois que l'attrait, enfin ce qui fait que la Régie est la première marque française, c'est le nombre de modèles. Nous avons une diversification assez importante puisque nous partons de la Renault 4 que vous avez certainement vue en ville, en traversant Orléans, jusqu'à la Renault 16 TS, c'est-à-dire que nous avons des voitures qui vont d'un prix de l'ordre de 600 000 anciens francs, c'est-à-dire 6 000 francs, à 1,5 million d'anciens francs, c'est-à-dire 15 000 francs. Donc nous avons une gamme très attendue, et je pense que c'est grâce à ça que nous pouvons pénétrer un peu partout, et dans tous les milieux, et même à l'étranger. Mm-hmm. Je crois, enfin. Oui.
On se demande aussi quelquefois si cela ne tient pas, jusqu'à un certain point, à l'intérêt que prend la direction dans les relations humaines, c'est-à-dire l'intérêt que vous prenez au personnel
ou... Ben, je ne crois pas parce qu'en général, enfin, c'est un avis personnel.
Oui, oui, bien sûr.
Je ne crois pas que ce soit grâce à ça, parce qu'en général, le français moyen, si vous interviewez des gens en ville et vous leur posez la question qu'est-ce que vous prononcez des problèmes sociaux chez Renault, ou qu'est-ce que si vous leur posez la question est-ce que vous pensez que c'est bien de faire ce que Renault fait, beaucoup de gens vous diront, les gens de chez Renault, je vais parler très brutalement, enfin les gens de chez Renault, bon, ce sont des gens qui ne foutent rien, je m'excuse de l'expression, ce sont des gens qui travaillent peu, mais enfin on ne vous dira pas ça, on dirait qu'ils ne foutent rien. Ils sont toujours en grève, et ce sont des voyous. En réalité, les gens de chez Renault sont comme tous les gens de partout, vous savez, il y a des bons et des mauvais. Il y a des voyous, c'est incertain, mais il y en a pas plus qu'ailleurs. La répartition et la courbe de Gauss est toujours la même, quel que soit le milieu dans lequel on se trouve. Mais je ne crois pas que ce soit ce problème qui amène les gens à acheter Renault. Et d'ailleurs, je dois vous dire que beaucoup de gens n'achètent pas Renault, justement à cause de son statut d'entreprise nationalisée. Beaucoup de gens peut-être pas, parce qu'il y a quand même 30% des Français qui roulent en voiture, qui roulent sur des voitures Renault. Mais il y a quand même des gens, et je connais des gens qui disent « Oh, bah, une entreprise nationalisée, ce sont des fonctionnaires, c'est des bagnoles, des voitures fabriquées comme on peut, on n'achète pas Renault. » Mais je crois pas que ce soit ça qui amène les gens à acheter des voitures, parce qu'ils sont... Beaucoup de gens sont... Oh, disons-le, ils sont jaloux des conditions qui sont faites aux ouvriers de la Régie Renault. Mm-hmm. Car toutes les entreprises françaises ne font pas les mêmes... ne donnent pas à leurs ouvriers le même statut que nous leur donnons maintenant.
Mm-hmm. Oui, c'est à ça que je pensais, que peut-être la qualité de la voiture tient un petit peu quand même aux conditions que vous organisez, que vous faites
pour... Je crois que la qualité tient surtout à la discipline qu'on est obligé de... Enfin, discipline dans le sens noble du terme, non pas dans le sens coercition, mais dans la discipline que nous avons vers nos ouvriers pour assurer une qualité constante et suivre avec précision toutes les consignes qu'on leur donne. La qualité physique de la voiture, la qualité vraiment la qualité client, si vous voulez, pour s'exprimer d'une façon précise, la qualité client est faite en fait par l'OS qui fabrique la pièce. Parce que, alors, je crois que c'est à l'intérieur de cette discipline, là encore, je dis dans le sens vrai du terme, qu'on applique aux OS, qu'on applique à tout le personnel, d'ailleurs à moi-même, mais de la même façon, qui font la qualité de la voiture et qui font que les voitures sont achetées par des clients. Mais je pense pas que le problème social incite les clients à acheter une voiture Renault plus qu'une autre.
Non.
Même dans certains cas, non. Enfin, j'ai des exemples où c'est non.
Vous avez parlé du statut des ouvriers à Renault. Alors, en quoi consistent les différences de statut à Renault ?
Alors, je vous parle aujourd'hui. Je vous parlerai peut-être pas de la même façon demain après-midi.
C'est ça.
Parce que vous savez que demain à 16h, la direction doit recevoir les organisations syndicales pour... oui ou non, signer un accord d'entreprise. On appelle un accord d'entreprise un ensemble de textes. Je l'ai sous... Vous m'excusez. Oui. Merci. Allô. Ouais. Bon, alors filez, mon lapin. Les différents statuts, enfin les différents statuts aujourd'hui, si vous voulez, on va parler du mercredi 25 mars. Il y a trois grands statuts à la régie. Vous avez le personnel horaire, le personnel mensuel et le personnel cadre. Les grosses différences, le personnel horaire est payé à l'heure. C'est-à-dire que le personnel va travailler un certain nombre d'heures et va être rémunéré en fonction du nombre d'heures travaillées. Il ne bénéficie pas de tous les avantages que possèdent les mensuels, c'est-à-dire qu'en cas d'absence, il est absent, il ne gagne rien. Le personnel mensuel, lui, est payé sur une base de 173 heures par mois, donc payé sur un mois. Ensuite à ça, on ajoute les heures supplémentaires qui sont majorées de 30% pour les 5 premières heures par semaine, et ensuite de 50% pour toutes les heures qui vont au-delà de 45 heures par semaine. Il a la possibilité, ce mensuel, de s'absenter, d'avoir une autorisation, par exemple, de s'absenter, et on peut ne pas lui retenir son absence. Il a la possibilité, en cas de maladie, d'avoir, je crois, ses 45 jours payés complètement, normalement. Cas de maladie, pendant 45 jours, il est payé ensuite 45 jours à 75% ou 50%, je pourrais vous le dire avec précision, je recherche les chiffres. Et puis entre le mensuel dont je viens de parler et l'horaire, il y a aussi le problème des congés. Vous savez qu'en France nous avons 4 semaines de congés légalement, et à la régie Renault on donne, en fonction de l'ancienneté, c'est-à-dire le nombre d'années vécues dans l'usine, un certain nombre de jours de congés supplémentaires. Ce qui fait que une bonne part du personnel a non pas 4 semaines, mais 5 semaines de congés. L'horaire ne l'a pas. Le monsieur qui est payé à l'heure ne l'a pas. Enfin, n'a pas les mêmes conditions. Ni maladie, ni congé. En plus, le mensuel... en fonction de son ancienneté dans l'usine, une amélioration de son salaire qui peut aller de 3 à 17%. Un monsieur qui a 20 ans de présence dans l'usine, mensuel, a en fait son salaire plus 17% de prime d'ancienneté. Alors il y a un troisième statut, le cadre, c'est-à-dire tous les gens qui sont au-dessus. Alors, là, il aurait encore fallu que je donne une explication préalable. Le cadre, c'est-à-dire le monsieur qui est au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au-dessus du chef d'atelier, c'est-à-dire au-dessus d'un coefficient 340. Je ne sais pas si on vous expliquait les lois Parodi en France, si vous les connaissez.
C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler des cadres et de diverses définitions de ce que c'est qu'un cadre, mais ce que c'est dans une usine ou dans une industrie ou dans une administration.
Alors tout ça, ça dépend de où vous allez.
Oui.
En définitive, à la régie Renault, je vais prendre tel que nous travaillons à l'heure actuelle, nous avons un premier stade, nous avons les horaires. Mm-hmm. Aujourd'hui, demain, ce sera peut-être différent. C'est vraiment demain, puisque... Oui. Nous avons les mensuels et nous affectons à chacun un coefficient. Un coefficient le plus bas serait le coefficient 100. C'est-à-dire, c'est vraiment le minimum minimum, c'est-à-dire le balayeur, si vous voulez. Bien que nous ne payons pas les balayeurs 100. Les horaires, leur coefficient va environ, si vous voulez, jusqu'à 200. Et nous avons des mensuels, les petits mensuels, ce que nous appelons les petits mensuels, les employés aux écritures, les secrétaires dactylos, encore les secrétaires ne le sont même pas, qui évoluent dans une zone de coefficient hiérarchique qui va de 140 à 200 environ. Ensuite, entre 200 et 340, nous avons tous les techniciens. Je vous fais un schéma très rapide. Nous avons tous les techniciens. Et au-dessus du coefficient 340, le coefficient disparaît, ce chiffre disparaît, et on appelle ces gens-là à la régie Renault des cadres. Alors les cadres, eux, ont des points communs avec les horaires et nombre d'ancienneté, et ils bénéficient d'une garantie de salaire en cas de maladie beaucoup plus importante. Ils bénéficient aussi de congés supplémentaires. Il fut une époque où ils avaient un avantage et les cadres ne pointaient pas. Pointer, c'est la pendule, vous savez, on met son carton dans la pendule pour afficher l'heure d'arrivée. Les cadres n'avaient pas cette contrainte. Maintenant, on ne fait plus pointer personne, alors cette contrainte est tombée.
C'est juste à Renault.
Renault, oui, beaucoup d'entreprises aussi maintenant. Je pense que beaucoup d'entreprises ne font plus pointer. Mm-hmm. C'est une contrainte assez désagréable. On définit au fond. Les gens arrivent toujours à la même heure, vous savez. C'est pas un problème très compliqué. Les gens qui arrivaient en retard en pointant arrivent toujours en retard sans pointer. Et les gens qui arrivent à l'heure arrivent toujours à l'heure, c'est notre problème.
Oui, c'est vrai. Alors, demain, oui, comme vous avez dit, demain, peut-être que ça va changer.
Demain, peut-être, oui, demain, peut-être.
C'est la mensualisation.
La mensualisation.
N'est-ce pas, qui changera quelque peu le statut des horaires.
Alors, nous avons donc, vous voyez sur ce petit croquis, très simple, nous avons donc trois zones, le cas, on n'en parle pas, le mensuel, et nous avions les horaires, qui eux avaient un statut assez différent. Si les organisations syndicales décident demain de signer l'accord d'entreprise, dès le 1er juin prochain, tout le personnel, j'ai le texte sous les yeux, tout le personnel étant à la régie Renault, tout le personnel qui est à la régie Renault aujourd'hui serait mensuel au 1er mars 1973. C'est-à-dire que il aura outre son mois normalement payé, dû aux heures de présence, une prime d'ancienneté qui sera fonction de sa présence à l'usine, qui va de 3 à 17%, comme pour le mensuel. Il aura un certain nombre de congés supplémentaires. Il aura, en cas de maladie, d'arrêt de travail pour une raison de maladie tout à fait classique, ou la maladie, la grippe, 45 jours qui lui seront payés à plein temps, c'est-à-dire sans absolument aucun abattement. Ensuite, il y a 45 autres jours qui lui seront payés à 50%. La sécurité sociale apportant d'ailleurs une compensation à la perte de salaire. En cas de... pour les enfants, enfin pour les enfants, pour les femmes, nous avons peu de femmes à Orléans, mais enfin pour les femmes qui travaillent dans l'usine, les congés de maternité qui sont différents, les possibilités de prendre des congés supplémentaires, non payés d'ailleurs, mais enfin sans pour autant rupture de contrat, les congés annuels qui sont plus élevés, je suis en train de chercher des chiffres, je ne trouve pas. Des avantages de congés aussi, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, à des congés spéciaux pour le mariage d'un enfant, son mariage propre, parce que ça peut arriver aussi. En France, le conseil de révision, les décès aussi, en cas de décès, on accorde 3 jours payés à un ouvrier, ce qui n'existait pas auparavant. La mensualisation, en définitive, change des choses, je crois, surtout sur la sécurité de l'emploi. Sur le plan pécunier, ça apporte quand même effectivement 3 à 17% d'augmentation, mais ça ne change pas tellement le statut des ouvriers de la régie, parce que les ouvriers qui sont chez Renault à Orléans, enfin à Saint-Jean-de-la-Ruelle, sont bien contents d'y être, et ils restent, ce qui est d'ailleurs un problème. Oui, quand les variations de fabrication, quand la quantité de pièces baisse, on a du monde en trop, on a des gens, bon, on ne sait pas quoi faire de ces gens-là. Alors que dans certaines usines, pour ne citer que celle de Billancourt par exemple, vous avez deux portes, la porte d'entrée dans l'usine et la porte de sortie, les gens qui rentrent et les gens qui s'en vont. Il suffit à ce moment-là de fermer la porte d'entrée pour équilibrer très rapidement l'effectif nécessaire. Parce que ici à Orléans et dans toutes les usines de province, l'usine du Mans que je connais bien, j'étais encore il n'y a pas tellement longtemps, ben les gens qui sont rentrés chez Renault, ils sont incrustés et puis ils restent accrochés des quatre pattes comme un chat. Vraiment, il n'y a plus aucune possibilité de les faire sortir.
On n'est pas aussi mobile donc.
On utilise en France un terme anglais, je ne sais pas si c'est valable d'ailleurs. On appelle ça, on a très peu de turnover.
À quoi ?
Turnover. T-U-R-N, over.
Ah oui, je comprends. Turnover.
Turnover. Oui. On utilise ce terme, nous en avons très peu. Mm-hmm. Et c'est un problème pour toutes les usines de province. Et les gens viennent, s'y installent et y restent. Mm-hmm. Ce qui fait d'ailleurs, ça rejoint la question que vous posiez précédemment, ça rejoint la mensualisation du personnel, c'est qu'ici à Orléans, dans 3 ans, nous aurons 90% du personnel qui sera mensuel. Ça, les gens ne bougent pas.
Ça se comprend, je suppose, d'ailleurs, parce que si les conditions sont bonnes ici...
Oh, je pense pas que les conditions soient excellentes, mais enfin, elles sont pas si mauvaises comparées aux autres. Je dois avouer, comme Mademoiselle Poncelet est partie discuter dans l'atelier, elle aura l'occasion de poser cette question aux gens, et si les gens répondent d'une façon objective, et ça m'arrive bien souvent de discuter avec des garçons qui travaillent dans l'atelier, et des, bah on se rend compte qu'on est pas mal chez Renault quand on a travaillé ailleurs. Mmh. Ça, c'est...
La mensualisation semble, enfin, d'après les journaux, ça semble rejoindre un tout petit peu d'autres grands mots qui est sorti il y a 2 ans, la participation, c'est-à-dire changer peu à peu le statut de l'ouvrier jusqu'à ce qu'il devienne capable ou enfin à même de participer à la gestion ou à la... s'intéresse tout au moins à la, l'organisation de l'entreprise. Pensez-vous que c'est pratique, que c'est possible?
Déjà, contrairement à ce que beaucoup pensent, la Régie Renault a un conseil d'administration dans lequel des représentants ouvriers, mensuels et cadres sont invités. Mm-hmm. Le conseil d'administration est formé par les représentants des ministères de tutelle et par les représentants du personnel de l'usine, cadres, horaires, mensuels, enfin, toutes les catégories professionnelles. D'autre part, au niveau des usines, il existe, c'est légal en France d'ailleurs, ça doit être une loi de 45, un comité d'entreprise, avec un certain nombre de commissions diverses, mais ces commissions et ce comité d'entreprise sont formés par des représentants du personnel, représentants élus de toute catégorie, que ce soit des ouvriers de tel ou tel syndicat, je n'en citerai pas, assistent à ces commissions et participent ainsi à la vie de l'entreprise. Quand on parle de participation, je crois que déjà la Régie Renault, en appliquant les textes du lendemain de la guerre, a vraiment fait participer son personnel. D'autre part, sur le plan économique, c'est-à-dire sur le plan financier, enfin sur le plan rémunération, la Régie Renault est une société, est une maison qui fait relativement peu de bénéfices et qui préfère les transformer ou en salaire ou en avantages ou en primes et le donner à son personnel. Donc ça, c'est la forme économique. Donc je ne pense pas, enfin, c'est là encore un point de vue qui n'engage que moi, je ne pense pas que la participation telle qu'on l'entend à l'heure actuelle en France et telle que on pourra la développer amènera grand chose. Je ne pense pas. Ben ça, c'est un point de vue qui m'est personnel, car d'ores et déjà, les organisations syndicales, donc représentant le personnel, participent à la gestion de l'entreprise, et d'autre part, sur le plan financier, enfin sur le plan économique, la régie, l'entreprise fait participer son personnel. Si on a du bénéfice, vous savez qu'en France on a la loi sur les bénéfices commerciaux, oui, qui prévoit 50% de prélèvement. Bon, bah, la régie ne fait pas de bénéfice et préfère distribuer son bénéfice. Encore, légalement elle ne fait pas de bénéfice, mais ce qu'il y a comme argent en plus est distribué au personnel sous forme de primes. Donc là encore, c'est une forme de participation. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus. Mm-hmm. De toute façon, à l'intérieur d'une entreprise, je crois qu'il y a un problème qui est très simple. On a un gâteau, on a une galette, et suivant le nombre de parts, bon, les parts sont plus ou moins grandes. Si on fait une grande part, si on fait une part de participation, bah, les autres parts sont plus petites. Mais en définitive, on n'a toujours que la même galette à partager.
Oui.
Et c'est le cas de la Régie Renault.
Oui.
C'est une entreprise commerciale, on fabrique des voitures, donc on achète des matières premières, on vend des voitures, donc on récupère de l'argent, la différence donne un bénéfice, une partie va à l'investissement, une partie va à la rémunération statutaire, et une partie va à l'amélioration de la rémunération. Mais c'est cette partie qui n'est pas compressible ni expansible, cette partie restera constante et on ne pourra à ce moment-là qu'en charger la répartition. Mais je ne pense pas qu'on puisse augmenter les bénéfices de la régie et donner beaucoup plus d'argent aux gens en faisant de la participation. C'est souvent ce que les ouvriers, à travers les informations que leur donnent les syndicats, pensent, c'est que la régie est très riche et qu'elle a beaucoup d'argent. Enfin, à l'intérieur, on a une galette, on a un gâteau, on le partage en X morceaux. On ne peut pas le faire grandir par un coup de baguette magique, sans ça, non. Beaucoup l'auraient déjà fait.
Non. Bien sûr. Est-ce que c'est à cela surtout que les ouvriers s'intéressent, donc, participation financière ou...
Non, bah, je ne crois pas que les ouvriers soient tellement passionnés. Mademoiselle Poncelet contredira peut-être tout à l'heure avec les enregistrements qu'elle aura fait. Mais je ne pense pas que les ouvriers soient tellement intéressés à la participation. Ils sont surtout intéressés à ce que contient leur portefeuille. Et quand on discute avec eux, c'est pour ça que je pense que M. Davis et Mlle Poncelet peuvent se promener dans les ateliers. Je le souhaite d'ailleurs qu'ils puissent discuter avec eux pour se rendre compte de ce que pensent les gens. Les gens sont surtout intéressés en définitive ce que, à la fin du mois, ils auront à redistribuer, ce qu'ils auront pour acheter ce dont ils ont besoin d'une part, ou ce qu'ils désirent, qui n'est pas forcément un besoin d'ailleurs, parce que je crois qu'il faut partager le besoin du désir. Mais je crois que c'est surtout maintenant, c'est une opinion qui m'est personnelle, c'est surtout la partie désir qui commence à prendre un volume assez important. Et je crois que les gens, que ce soit la participation, que ce soit l'intéressement, que ce soit la distribution des bénéfices d'une forme ou d'une autre, ce qui les intéresse surtout, c'est d'en avoir le maximum. C'est d'avoir le maximum d'argent à disposer pour les vacances, pour acheter une nouvelle voiture, pour acheter le réfrigérateur, pour acheter la machine à laver que madame voudrait, enfin... En dessous, il y a des tas de trucs, serait-ce que pour acheter un magnétophone pour enregistrer quelqu'un.
Bien sûr, oui. Mais on parle aussi quelquefois de l'intérêt qu'a un travailleur au procédé auquel il fait part. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez ici que les ouvriers s'intéressent à suggérer d'autres méthodes, d'autres procédés, d'autres...
Je pense que les ouvriers, contrairement à beaucoup, vous ne diffuserez pas votre enregistrement au patronat français, non ?
Non, ce sera tout à fait anonyme, ça sert aux besoins de la recherche.
Non, mais j'ai une chose, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de patrons pensent, les ouvriers s'intéressent à leur travail. Et... s'intéresse très sérieusement. J'ai fait plusieurs expériences d'ailleurs à ce sujet. Et j'ai fait des expériences, disons, idiotes, parce que j'ai fait l'âne. J'étais trouvé des ouvriers qui travaillaient à leur machine. Puis j'aurais posé des questions, mais en posant des questions idiotes. Le sachant pertinemment d'ailleurs que je posais une question idiote. Et je me suis aperçu que c'était pas une expérience à faire d'abord, parce que ces garçons-là m'ont répondu avec beaucoup de pertinence, en me donnant des tas de détails sur leur travail, et contrairement à ce qu'on pense, beaucoup d'ouvriers s'intéressent à leur travail. Et s'y intéressent... beaucoup, oui, c'est vrai, je crois qu'on peut dire beaucoup. Pratiquement tous s'y intéressent à leur travail. Ce sont des gens qui... Je parle des ouvriers français, c'est-à-dire des ouvriers orléanais, Morceau ou autres, puisque je m'excuse en venant souvent au Mans, parce que ayant passé 20 ans dans l'usine, je connais mieux que celle-ci. Mais les gens connaissent leur machine. Ils disent ma machine, mon contremaître, mon chef d'équipe, mon chef, des fois ils s'approchent s'ils sont chef d'équipe ou autre. Ils en ajoutent ce possessif et ils savent très bien ce qu'ils font. En général, ils savent bien le faire. Et ils sont conscients de leurs responsabilités. À leur niveau, évidemment, c'est pour le... Ils n'ont pas la marge de l'entreprise sur le dos. Mais ils savent que la pièce qu'ils doivent faire doit être faite de telle et telle façon. Il y a telle qualité à obtenir, telle tolérance, il faut en faire. Non. Les gens sont très très conscients. Et c'est pas toujours l'avis de certains patrons. Mais je crois que, en général, l'ouvrier français est consciencieux. Je crois que c'est ce qui résume ce que je viens de dire. Les gens sont très conscients de ce qu'ils font, ils sont très consciencieux d'obtenir une qualité, une quantité. Et... j'ai quelques exemples là qui m'ont été donnés, même à Orléans, là, très récemment. Et moi, les gens font ce qu'ils peuvent.
Alors, une dernière question, je crois, puisque... je vous ai pris beaucoup de votre temps.
Je vous en prie, je vous ai dit que j'avais libéré mon après-midi.
C'est trop gentil. J'aimerais savoir, enfin, j'aimerais que vous me disiez en quoi consiste une journée de travail pour vous, personnellement. Quels sont les gens que vous voyez généralement?
Une journée de travail pour moi?
Oui.
Oh, ça peut être extrêmement variable. Certains jours, c'est très calme. De toute façon, la journée de travail se divise en gros, en trois morceaux importants, en trois parties importantes. La première partie, c'est, disons, l'examen dès le matin du courrier des informations récentes, c'est-à-dire le contact avec nos collaborateurs les plus proches, M. Gombert, que vous avez vu tout à l'heure, M. Lebar, qui n'était pas là, enfin, qui est responsable des fabrications, Robin, responsable de la qualité, si vous voulez, c'est la première partie de la journée. Une deuxième partie de la journée qui, enfin, à peu près, on peut les diviser en trois, la journée peut être divisée en trois, où je peux travailler personnellement sur un problème. Problème qui peut être relatif à l'usine à court terme ou à long terme. Et une troisième partie de la journée, et c'est très simple, où il y a aussi le courrier du soir. Tout à l'heure, les camions vont amener le courrier, les problèmes du soir, et en même temps la préparation de la journée du lendemain. Mais autrement, c'est extrêmement variable, parce qu'à l'intérieur du tiers de la journée que je consacre à mon activité personnelle, bah, ma foi, ça peut aller de la lecture d'une revue technique, de la recherche d'un problème technique dans une revue, à une étude technique avec mes collaborateurs sur un problème bien précis. Enfin, disons que je n'ai jamais de programme bien fixe dès le départ.
Non.
Ma porte est toujours ouverte à mes collaborateurs quand un renseignement leur manque, quand ils veulent, disons, prendre une décision, mais qu'ils ont un petit peu peur de la prendre, ben, ils viennent me trouver, ils ont une note à faire, ils viennent me trouver, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, et je considère qu'il est absolument normal que ma porte soit toujours ouverte pour ces problèmes. Alors, la journée est très vite remplie. D'autre part, j'ajouterais quand même que je tiens à ce que mes collaborateurs suivent l'horaire que l'usine suit, c'est-à-dire que je ne veux pas voir des gens travailler très tard le soir, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que je ne vous ai pas parlé dans les accords qui seront peut-être signés demain de la réduction des horaires de travail, mais je voudrais que mes cadres en profitent eux aussi, et ont le droit de vivre chez eux, d'avoir une vie familiale. Ils ont le droit aussi de se distraire par différents moyens, je leur laisse le choix. D'autre part, moi-même, je ne tiens pas du tout à rester à l'usine jusqu'à 8h du soir, parce que moi aussi j'ai une vie familiale. Et j'estime qu'un monsieur qui travaille bien, dans sa journée de travail qui est d'environ 9h, s'il a bien travaillé 9h, c'est largement suffisant pour un homme. Ou pour une femme.
Parce que
je fiche ma secrétaire à la porte aussi.
Oui.
Et maintenant, c'est arrangé. Au début, cette brave jeune fille restait très tard le soir. Je ne vois pas la nécessité de rester tard le soir si on a bien fait son travail dans la journée.
C'est l'idéal, oui.
J'essaie d'atteindre l'idéal, mais enfin, c'est pas parfait. Mm. Et je crois qu'il faut respecter certaines doctrines. Un ouvrier, c'est une des différences qu'il y a entre l'ouvrier et un ouvrier qui, lui, arrive à l'heure, il pointe, tac, la pendule indique l'heure, il repart, la pendule indique l'heure. Et je crois que pour les autres membres du personnel, faut pratiquer de la même façon. Il faut arriver à l'heure. Il faut repartir à l'heure.
Vous savez, tout récemment, une équipe de professeurs d'université en Angleterre s'est mise en tête de faire une recherche sur la manière dont les professeurs d'université passent leur temps. Ils nous ont fait remplir un petit bouquin, comment on utilisait chaque demi-heure de la journée. Et j'ai trouvé à la fin de cette semaine que j'avais travaillé 70 heures.
C'est beaucoup trop.
C'est beaucoup trop, oui.
Oui, mais
je suis effarée.
Marqué, moi je travaille certainement beaucoup plus de 40 heures par semaine. Parce que j'ai en plus du travail de l'usine, d'autres occupations. Enfin, ça c'est. Et moi, quand je suis responsable, si vraiment je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas. Mais je crois que, à l'intérieur d'une entreprise comme la nôtre, qui est très prenante, où les travaux que nous avons à faire sont très astreignants, certaines fois, il faut observer une discipline. Le monde moderne, la vie que nous menons tous les jours, que ce soit en France ou en Angleterre, je pense que c'est la même chose. L'activité quotidienne, la vie de tous les jours, si nous voulons tenir le coup, si vraiment on veut rester à la surface, il faut se reposer de temps en temps. Et je crois que c'est en observant une discipline qu'on peut le faire. Si on veut travailler, moi je dois travailler tous les soirs jusqu'à 11h ou minuit. Je pourrais passer ma vie au bureau, je pourrais même dormir ici, ou même ne pas dormir, j'aurais quand même de quoi travailler. Mais enfin, a priori, je pense que ceci n'est pas valable ni pour l'entreprise ni pour l'homme. Il faut observer cette discipline. Et c'est pour ça que j'impose à mes cadres et collaborateurs. Bon, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Ces gens-là vont sortir à 5h20. Bon, ben à 5h20, vous partez, on n'en parle plus. Si besoin est, si un coup dur se présente, s'il faut rester toute la nuit à l'usine, alors là, je suis d'accord, on reste toute la nuit. Il faut que ce soit un accident. Je ne conçois pas le travail avec des gens qui restent tard le soir, soit pour faire bien, soit pour faire plaisir au patron. Moi, ça ne me fait pas du tout plaisir parce que de toute façon, j'ai envie de rentrer chez moi aussi.
Oui. Bon. Alors, je vais